disait, ben, en premier lieu, j'aimerais ça, moi aussi, au nom de l'Église et des anciens aussi de la Bible parle, de féliciter notre frère Christian pour son ordination et avec son épouse également. Donc, que Dieu puisse te bénir, cher frère, et qu'il puisse continuer à t'utiliser pour sa gloire. Alors, on va passer tout de suite à la prédication de la parole cet après-midi. Vous allez voir, ça va être plus un peu plus par thème. C'est un thème sur la sanctification. Et on va lire le passage, donc 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, et on va lire aussi le verset 24. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Amen. Surtout ce passage-là qui nous dit que celui qui est fidèle, celui qui nous a appelé plutôt est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc, on va parler sur la sanctification. On va revenir à ce verset-là un petit peu plus loin aussi. Et juste pour vous dire, c'est plus une étude que j'apporte, une étude bien simple là, sur un sujet que vous connaissez probablement bien et que vous avez des prédicateurs qui sont bien ferré pour vous l'enseigner, mais c'est bon de se rappeler aussi les vérités de l'Évangile, de la parole de Dieu. Et l'étude va être divisée en trois sections. Donc, qu'est-ce que la sanctification, premier point. Deuxième point, la nature de la sanctification. Et troisième point, les moyens de la sanctification. Donc, encore une fois, qu'est-ce que la sanctification, la nature de la sanctification, les moyens de la sanctification. Et puis, cette étude-là, on l'a donnée aussi en partie à l'Église, la Bible parle, qui est basé en grosse partie sur un livre de Francesco La Cueva, probablement que vous le connaissez, l'œuvre de la grâce, et aussi basé sur une étude sur la 1689 également, dont un des auteurs s'appelle Jeffrey Smith, excusez-moi. Donc, on va y aller avec ça cet après-midi. Alors, on y va. Premier point, qu'est-ce que la sanctification? Je vais enlever mes lunettes parce que j'ai de la misère à lire avec ça. Je vous vois pas, par contre. Alors, qu'est-ce que la sanctification? Et l'auteur nous dit que le péché va se manifester sous trois formes. Soit l'acte, l'état et le pouvoir. L'acte, l'état ou le pouvoir. Premièrement, l'acte du péché. L'acte du péché, il y a toutes sortes de péchés qu'on va manifester, qu'on va faire. Et puis, Galates chapitre 5, verset 18 à 21 nous parle des œuvres de la chair. Et sans entrer, on n'ira pas voir le passage, mais l'acte du péché, par la justification, l'acte du péché est pardonné. Donc, lorsqu'on est justifié, nos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés également. Deuxièmement, il y a l'état du péché. Quel était notre état avant de venir au Seigneur Jésus-Christ? Nous étions séparés, morts spirituellement, ennemis de Dieu. On était inimitié. Vraiment, notre situation était inimitié contre Dieu. L'état du péché a été changé justement lorsqu'on est venu au Seigneur Jésus-Christ dans un état de communion, d'amitié et de filiation divine. Alors, c'est tellement merveilleux de savoir que non seulement on a été justifié, non seulement on a été pardonné, non seulement on a été lavé, maintenant on peut être considéré comme des fils et des filles de Dieu. Quel privilège cet après-midi! Je pense que lorsqu'on s'arrête un peu, puis moi le premier, là, je pense que souvent on devient familier avec les vérités de l'Évangile. Et ça, la question de l'adoption filiale, on doit leur visiter fréquemment aussi. Parce qu'on est vraiment ses fils et ses filles. Puis on est l'objet de son amour immense. Un amour qu'on ne peut pas mesurer. Donc ça, c'est vraiment l'état du péché. Passer de la mort spirituelle à un état de communion et de filiation divine. Et troisièmement, le pouvoir du péché maintenant. Le pouvoir du péché, celui-ci demeure encore dans le chrétien. Même lorsqu'on est venu au Seigneur. La puissance de la grâce du Saint-Esprit va contrecarrer le pouvoir du péché d'une part au moyen de la régénération spirituelle, donc la nouvelle naissance, qui, comme la justification, est instantanée. Donc, je répète ça. Le pouvoir du péché est contrecarré par le Saint-Esprit, OK? Mais à ce moment-là, lorsqu'on vient au Seigneur aussi, le pouvoir du péché contrecarré, mais au moins la régénération spirituelle, donc la nouvelle naissance, qui, comme la justification, est instantanée, et d'autre part, au moyen de la sanctification, processus qui dure jusqu'à la mort. Je ne veux pas vous décourager, mais ça va durer jusqu'à la fin de notre vie. Alors voilà, ça, ce sont les trois formes du péché, donc l'acte, l'état et le pouvoir. Maintenant, si on donne une définition de la sanctification, la Cueva va nous donner une définition, puis j'ai pris celle aussi de Wayne Grudem également. La Cueva dit « La sanctification est l'attitude continue de soumission au Saint-Esprit qui, ayant régénéré notre être intérieur, maintient et fortifie cette disposition de sainteté initiale. » Donc, je répète, la sanctification est l'attitude continue de soumission au Saint-Esprit qui, ayant régénéré notre être intérieur, maintient et fortifie cette disposition de sainteté initiale. On va revenir tantôt à ce qui a rapport avec la sainteté initiale. On va revenir un peu avec ce que ça veut dire. Tandis que Grudem va dire que la sanctification est une œuvre progressive à la fois de Dieu et de l'homme. Contrairement à la justification, contrairement à notre salut, qui est une œuvre complètement à l'œuvre de Dieu, donc monergiste, il y a vraiment une coopération ou un synergisme dans la sanctification qui nous rend de plus en plus libres à l'égard du péché et de plus en plus semblables à Christ dans le contexte de notre existence quotidienne. Donc, c'est une œuvre progressive, premièrement, qui requiert notre coopération. Il y a celle du Saint-Esprit, il y a celle de l'homme également, et qui nous rend de plus en plus libres à l'égard du péché et de plus en plus semblables à Christ dans le contexte de notre existence quotidienne. On peut retirer quelques remarques de la définition de la Cueva particulièrement. Avec la régénération spirituelle, le cœur a changé d'orientation. Il y subsiste cependant des tendances mauvaises qui doivent être dominées. Jean 13, verset 10, on peut tourner à ce passage-là. Lorsque, vous vous souvenez, lorsque Jésus décide de laver les pieds de ses disciples. Jean 13, verset 10. Et vous vous souvenez de la réaction de l'apôtre Pierre quand Jésus a dit, justement, je vais te laver les pieds, il dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Oh, ça a changé. Il disait assez rapidement la part de Pierre. Bien, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Alors Jésus répondit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes pur, mais non pas tous. Donc, il y a vraiment cette régénération spirituelle qui a fait en sorte qu'on était purifié, qu'on était sanctifié. Mais qu'on a besoin aussi d'avoir cette œuvre aussi qui est progressive dans notre vie afin de devenir de plus en plus pur. Alors, c'est pour ça cette allusion-là par rapport à laver les pieds pour être entièrement pur. Si le péché ne règne plus dans le croyant, il habite encore en lui. Donc, on n'est plus sous le règne du péché maintenant. OK? On a changé de maître. Deuxième point, le croyant justifié abrite encore en lui deux tendances contraires, deux centres de gravité ou deux natures. Encore ça, c'est la Cueva qui le mentionne. Celle du vieil Adam, l'inclinant à l'égocentrisme, c'est-à-dire le péché, et celle du nouvel Adam qui a été créé selon Christ dans la justice et la sainteté dans Éphésiens chapitre 4, verset 24. Celui-là l'attire vers Dieu et vers le bien. Donc, qu'est-ce qui arrive, étant donné qu'on a ce vieil Adam et ce nouvel Adam? Il y a vraiment un conflit continuel durant toute notre vie, encore une fois, qui existe dans notre vie. Donc, le vieil Adam, un rappel que c'est le vieil Adam qui a écouté la voix du tentateur, Adam et Ève, Satan, qui est le père du mensonge. On le voit dans Jean chapitre 8, 44, lorsque Jésus le dit, aux pharisiens en disant que vous avez comme père le diable qui est le père du mensonge. Mais il y a aussi le dernier Adam, le nouvel Adam, Jésus-Christ, que lui a écouté constamment la voix de son père et a accompli sa volonté tout au long de sa vie. Alors, vous voyez vraiment qu'on a absolument besoin de Jésus-Christ dans notre vie. On a absolument besoin qu'il habite en nous pour pouvoir accomplir l'œuvre et la volonté du Père également. Troisième remarque concernant les définitions sur la sanctification. Dans ce conflit, la victoire est remportée par qui, selon vous? Qui peut nous permettre de remporter la victoire, selon vous? Dieu, hein? Mais plus particulièrement la victoire par le pouvoir du Saint-Esprit qui fortifie notre foi pour que nous marchions dans la voie de la sainteté. Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7 nous dit « Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, alors maintenant qu'on est sauvé, qu'on est justifié, qu'on est pardonné, maintenant Paul nous invite « Marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi ». D'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Quatrième remarque aussi, il ne suffit pas juste de reconnaître qu'il y a une tension qui est dans notre vie. Okay? C'est vrai, on la sent tous, cette tension-là. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a ici qui ne sentent pas aucune tension entre la chair et l'esprit ici? OK, d'abord, comment est-ce qu'il y en a qui la sentent d'abord, en levant la main? N'est-ce pas, hein? On la sent tous. Auparavant, avant qu'on vienne au Seigneur, il n'y avait pas vraiment cette tension-là. Il y avait probablement un vide, mais il n'y avait pas vraiment ce combat-là entre la chair et l'esprit, parce qu'on n'avait pas l'Esprit de Dieu. Maintenant, on a l'Esprit de Dieu, et il y a vraiment cette tension-là. Mais il ne s'agit pas simplement de la reconnaître, mais il faut encore se soumettre pleinement à l'œuvre de la sanctification, c'est-à-dire à faire mourir en nous le péché, ne pas se conformer au monde, changer nos critères et notre conduite, rester toujours sensible à la voix et l'action du Saint-Esprit qui nous indique à chaque instant quelle est la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu, selon Romains chapitre 12, versets 1 à 3. Alors voilà quelques commentaires par rapport à la définition sur la sanctification. Si on regarde aussi, il y a certains mots, puis je n'entrerai pas dans les détails, mais dans l'Ancien Testament, on parle du mot « kadash » qui veut dire « sanctifier », le verbe « sanctifier ». Kodesh qui signifie sainteté et Kodosh qui signifie saint. Dans le Nouveau Testament, c'est Agios qui est saint, qui est une chose très sainte, consacrée. Et Agiazo qui est le verbe sanctifier. Mais la signification première de saint, c'est vraiment d'être coupé, d'être séparé du monde profane, pour être consacré à Dieu. Donc, il y a vraiment une notion de séparation qui est inclue dans le mot « soit sanctifié » ou « saint » ou etc. Et puis, on peut le voir aussi dans Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Si vous tournez là-dedans, Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20, que vous connaissez tous. Alors que Jésus invite ses disciples, les apôtres, à faire aller vers la grande mission, la commission qu'il lui donne, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le verset 19 particulièrement, il y a vraiment cette proposition dans le grec qui est le « eis, eis ». En tout cas, Mathieu, je sais que tu as pris des cours, tu as pris quatre cours de grec, et puis c'est quand même quelque chose qui est assez particulier, mais on apprend toujours là-dedans. Mais, notre professeur, je ne sais pas si tu t'en souviens, notre professeur, en passant un petit aparté, il nous disait toujours, il dit « Courez après le grec, sinon c'est le grec qui va courir après vous. » Et puis, en tout cas, c'est vraiment quelque chose. Mais c'est intéressant de voir que cette proposition-là nous parle de « en » ou « dans », qui signifie « en » ou « dans ». Ça veut dire que les disciples sont ceux qui sont coupés du monde, donc sont coupés de l'ancien régime de Satan, qui sont séparés de parmi les nations. Donc, il y a vraiment, lorsque les disciples ont été appelés à faire des disciples un peu partout dans le monde, le Seigneur dit « allez, faites des disciples, les baptisant au nom du Père. Mais ça veut dire que ces gens-là sont pris du monde, sont coupés du monde, et maintenant sont baptisés dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, ils sont vraiment, à ce moment-là, le baptême est comme un signe qu'ils sont unis, sont maintenant greffés à Dieu, qu'ils sont baptisés en Jésus-Christ par le don du Saint-Esprit. Alors, il y a vraiment cette notion d'être coupé du monde. Puis c'est important de se rappeler ça. On n'est plus de ce monde. Okay? On est dans le monde, mais on n'est plus de ce monde. Puis le Seigneur nous appelle à nous séparer du péché, de nous séparer des influences que le monde nous donne, les philosophies, les façons de vivre, les façons de penser. Alors, c'est vraiment quelque chose que Dieu nous appelle à faire qui n'est pas évident toujours. C'est réellement un combat. Mais grâce soit rendue à Dieu, il nous a accordé son esprit pour pouvoir y arriver. Je n'entrerai pas dans les détails ici parce qu'il y a des synonymes dans le grec par rapport au mot « agios » dans le Nouveau Testament. Je vais sauter ça. Mais juste pour vous dire que par contre, il y a eu vraiment, au cours de l'histoire, il y a eu vraiment un glissement vers le moralisme et le légalisme. Donc, au lieu de penser que la sanctification était d'abord et avant tout une séparation pour une consécration, il y a vraiment un glissement dans le cours de l'histoire vers le moralisme, c'est-à-dire les choses « fais ceci, ne fais pas cela, ne mange pas, ne touche pas », etc. Donc, il était plutôt un attachement formaliste et étroit à la morale, sans vie. Donc, c'est un attachement sans vie. Donc, le but de ce moralisme-là, c'était plutôt d'être éthiquement et moralement dans les normes. Puis c'est pas ce que le Seigneur nous appelle à faire. Oui, Dieu nous appelle à devenir de plus en plus moraux, si on peut le dire, OK? Mais c'est pas le but premier. Et puis, ce qu'on dit ici, que le glissement aussi dans la sanctification, dans l'histoire, encore une fois, c'est la Cueva qui nous le dit, il y a trois points, en d'autres, qui a soulevé. Le premier point, c'était le sacramentalisme, qui tient son origine du mot sacrement. Comme vous le savez, les deux sacrements, selon les protestants, sont le baptême et la Sainte-Cène. Mais dans l'Église catholique, il en existe sept. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me le dire, c'est lesquels? Je ne sais pas s'il y en a qui sont des anciens catholiques ici, mais il y a vraiment le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la réconciliation, confession, demande de pardon et pénitence, l'onction des malades, et le mariage et les ordres. Donc, ce sont les sacrements qui sont considérés selon l'Église catholique. Selon cette tendance, le baptême d'eau, qui est la purification rituelle, lave les péchés passés, tandis que les péchés postérieurs au baptême doivent être expiés par les pénitences et les bonnes œuvres. Vous voyez déjà, le problème, c'est que à ce moment-là, lorsque les gens sont baptisés, on confère, si on peut dire, la grâce par le baptême. Et à ce moment-là, mais pour maintenir un état de grâce, il faut qu'on fasse des œuvres ou des pénitences. En tout cas, c'est vraiment, on tombe déjà dans une situation où le salut par la grâce seule, par la foi seule, est négligé de plus en plus. Le deuxième point, il y a aussi un moment donné dans l'histoire qu'il y a eu aussi l'ascétisme qui découle du sacramentalisme aussi. Un développement de la vie monastique considéré comme étant un état de perfection, selon eux, parce qu'on voyait en elle une meilleure occasion de se consacrer à Dieu, d'expier nos péchés et de pratiquer les vertus morales. L'ascétisme et le monasticisme plutôt. Troisième point, il y a une confusion de la justification et de la sanctification en considérant la grâce comme une qualité infuse qui procure effectivement la participation à la nature divine et le pardon des péchés, et on en vient à confondre la justification et la sanctification. Ça, c'est un problème, même si la réforme, comme l'auteur nous le dit, la réforme a corrigé cette situation-là, a redonné son vrai sens biblique à la sanctification, qui est une action continue de l'esprit dans le croyant. Elle se distingue clairement de la justification qui, elle, concerne notre position légale devant Dieu. Toutefois, les réformateurs soulignèrent la relation étroite qui existe entre la justification et la sanctification, qui toutes deux s'accomplissent par la foi. Et puis, en lisant ces trois dérives-là, si on peut dire, ces trois erreurs théologiques, j'ai pu, en réfléchissant là-dessus, c'est que, dans le fond, ces erreurs-là, ou ce danger, les dangers de ces erreurs théologiques, c'est que, premièrement, on donne un pouvoir aux sacrements eux-mêmes qui fait croire que la grâce de Dieu est sous le contrôle d'un clergé qui l'administre, le contrôle et la distribue comme il veut. Donc ça, c'est vraiment le sacramentalisme qui fait en sorte que c'est de cette façon-là. Mais la grâce de Dieu n'est pas une substance, c'est une personne. Rappelez-vous, le plus grand don qui nous a été accordé par Dieu, c'est son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est la grâce. C'est lui. Lorsqu'on reçoit Christ, on reçoit sa pleine grâce. Alors, c'est la manifestation de sa grâce faite chair. Deuxième danger aussi, qu'une séparation définitive du monde par les croyants. Donc, on parle ici plutôt de l'ascétisme et de la vie monastique, qui, bien qu'ils ne sont plus du monde, comme on l'a mentionné tantôt, vivent néanmoins dans le monde pour être des témoins de Jésus-Christ. Acte 1, 8 nous le dit, nous le rappelle en disant, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit nous a été donné justement comme une puissance pour devenir des témoins. Donc, c'est assez difficile d'être témoin si on se sépare complètement du monde. C'est impossible. Oui, une chose par contre, il faut mentionner que c'est important, c'est sain, S-A-I-N, c'est nécessaire de se séparer de temps en temps. Le Seigneur Jésus-Christ le faisait lui-même. Lorsqu'il arrivait la fin de sa journée, souvent, ou le matin, tout le matin, il arrivait, il se consacrait, il se mettait à part pour aller devant le Seigneur. Même il passait des fois des nuits. C'est nécessaire à un moment donné si on veut vraiment connaître la volonté de Dieu. Mais on ne reste pas là. Okay? On doit descendre la montagne et on doit aller dans le monde d'aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'enseignait hier justement avec. On faisait un cours sur la formation de disciples avec un frère. Il a dit à cette personne-là, tu sais, dans le fond, il dit, on est témoin. Dès que tu te lèves de ton lit le matin, tu deviens témoin. Okay? Partout où on est, que ce soit dans notre voisinage, on fait nos commissions, on travaille, peu importe, on est dans nos familles, le Seigneur nous appelle à être des témoins. Donc, oui, on n'est plus du monde, mais on n'est pas sorti du monde, on est vraiment ses témoins. On est ses agents, ses ambassadeurs de réconciliation, comme 2 Corinthiens 5, 20 le dit, et on est appelé aussi à faire des disciples. Et le troisième danger qu'on y voit aussi de ces erreurs théologiques, c'est que on voit, selon le troisième point, de vivre comme si le salut ne dépendait que de nous et être maintenu ou gardé par nos bonnes œuvres et notre moralisme. Quand on confond la justification et la sanctification, c'est le problème. C'est vraiment, on va faire en sorte qu'on va essayer de maintenir notre salut. On va essayer de faire en sorte qu'on va essayer de chercher l'amour de Dieu plutôt que de le recevoir en premier lieu. De chercher son approbation, de chercher, en tout cas, sa faveur, si je peux dire. Donc, si on inverse encore une fois, si on ne croit pas d'abord que Dieu nous a aimés en premier, puis qu'on l'aime en retour, ça va nous conduire dans un légalisme ou un désespoir. Le légalisme va faire en sorte que la personne va diminuer un peu, si on peut dire, les exigences de la loi, puis va penser qu'il les accomplit. Au contraire, puis il va juger les autres. C'est toujours les conséquences d'être un légaliste. Ou au désespoir, comme on l'avait déjà mentionné, vous vous souvenez que Luther, lui, avait dit à un moment donné, quand il voyait les exigences de Dieu dans les Écritures, les commandements, il dit, « Dieu, il dit, je le déteste, en me l'en dire, en d'autres mots, il dit, je ne suis pas capable d'y arriver, c'est impossible, jusqu'à temps qu'il y ait cette révélation-là de la justification par la foi seule. » Avant d'aller plus loin, je veux juste quand même donner, puis ça c'est Grudem qui le mentionne aussi, la distinction, puis c'est important comme on vient de le voir, le danger quand on confond la justification et la sanctification, c'est un danger aussi de pouvoir faire en sorte qu'on va maintenir, on va fonctionner par la loi et non par la foi. Juste pour vous dire la distinction entre la justification et la sanctification, premièrement, la justification, comme on l'a mentionné tantôt, c'est un statut légal, alors que la sanctification, c'est une condition qui est intérieure. Alors, le Saint-Esprit qui travaille dans notre cœur, le Saint-Esprit par sa parole aussi qu'on lit, qu'on médite dans la prière, fait en sorte que notre condition devient de plus en plus semblable à celle de Jésus-Christ. La justification a lieu une fois pour toutes, alors que la sanctification se poursuit tout au long de la vie. La justification est entièrement l'œuvre de Dieu, comme on disait tantôt, qui est une œuvre monergiste. La sanctification, nous y participons, donc il y a vraiment un synergisme. La justification est parfaite dans cette vie, tandis que la sanctification ne sera jamais parfaite dans cette vie. C'est sûr qu'on va plus qu'on va se sanctifier par l'œuvre du Saint-Esprit, on va s'approcher de la ressemblance à Christ, mais ça ne sera jamais complet et parfait ici. Et le dernier point, c'est que la justification est identique chez tous les croyants. Donc, Dave n'est pas plus justifié que Lana. On est tous justifiés, on a tous la même justice. C'est la justice qui a été imputée par Christ. Alors, on a la justice de Christ, tandis que la sanctification est différente selon les personnes. Je peux quand même lancer une question, vu que c'est plus une courte étude. Pourquoi, selon vous, justement, la sanctification serait différente d'une personne à l'autre? Gênez-vous pas pour... Sinon, je vais nommer quelqu'un. Pourquoi la sanctification est différente selon d'une personne à l'autre, d'un chrétien à l'autre? Oui, Dave. Exactement. Donc, on est tous des personnes différentes, comme tu le dis. On a tous des backgrounds différents. On a tous des péchés différents aussi. Hein? Pour un, peut-être mentir, pour lui, c'est un combat qui est extrêmement difficile. Puis, venant à Christ, sachant qu'il ne doit plus mentir, ça peut être aussi un combat plus difficile que pour un autre. C'est effectivement le cas. Selon vous, y aurait-il peut-être une autre raison? Oui, frère. Parfait, c'est bon. Frère Luc, c'est ça, Luc? En raison des appels aussi. Oui, le chemin qu'on a parcouru est différent et moins long, plus long aussi. Mais je pense aussi qu'on pourrait ajouter la question de notre coopération, notre collaboration au Saint-Esprit également qui est là. Parce que c'est sûr que ce n'est pas tous qui prennent qui mènent le combat de façon aussi sérieuse l'un comme versus l'autre ou tout ça. Puis je pense que là-dedans, on peut voir aussi éventuellement qu'il y aura aussi la question des récompenses aussi au ciel. Ça va être selon les œuvres aussi qu'on aura accomplies. Puis une des œuvres qu'on doit accomplir, c'est vraiment notre sanctification. C'est vraiment de faire en sorte qu'on devienne de plus en plus semblable au Fils de Dieu. Donc, voilà, oui, ça c'est la distinction entre la justification et la sanctification. Deuxième point, la nature de la sanctification. Pour certains, la sanctification est l'œuvre du croyant, ayant la vie en lui implantée par le Saint-Esprit au moment de la régénération. Le chrétien tire de cette source des énergies et des éléments nouveaux par un processus psychologique d'auto-persuasion. Ça, c'est Lacueva qui dit ça. Stimulé par des motivations morales que lui offre la foi. Comme il dit, rien n'est plus faux qu'une telle conception. OK? C'est pas par de l'auto-persuasion. Oui, le Seigneur nous a accordé son esprit. Oui, l'Esprit Saint, le Seigneur habite en nous. Mais c'est pas l'œuvre seulement du croyant. Plutôt, selon le Nouveau Testament, Premier point, la sanctification est l'œuvre de Dieu. Comme on vient de lire, OK, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Donc, qui est à l'origine de notre sanctification? C'est Dieu lui-même qui va faire en sorte qu'on va être sanctifié tout entier, notre être, l'esprit, l'âme et le corps, qui soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis le verset 24 qui nous disait, c'est lui qui va le faire et il est fidèle. Deuxièmement, plus spécifiquement, c'est l'œuvre du Saint-Esprit comme on l'a mentionné tantôt. Romains 8, verset 14 nous dit, « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, qui forment en notre être l'image de Jésus-Christ. » En effet, Romains 8, verset 29 nous dit, « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. » Alors, oui, l'œuvre de Dieu, comme on l'a lu dans le premier verset, c'est l'œuvre de Dieu, premièrement, qui est la source de notre sanctification, plus spécifiquement par le Saint-Esprit, selon Romains 8, 14. Et troisième point, qui exige notre coopération, qui exige qu'on y participe. Et puis, plusieurs versets que vous pouvez noter, ça dit ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10, ça nous dit, l'apôtre Paul, « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Alors, c'est qui là-dedans qui fait l'œuvre? Est-ce que l'œuvre se fait juste par Dieu? Non. Est-ce que l'œuvre se fait juste par l'homme? Non. Où doit-on fixer la limite entre les deux? On ne peut pas le savoir, tu sais, mais sauf que l'origine, par contre, de la sanctification, en bout de ligne, c'est Dieu qui l'a fait. Mais on doit y coopérer. L'autre verset qui est important aussi, Philippiens 2, 12 et 13, que vous connaissez bien. Ainsi, mes frères bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Donc, ça ne veut pas dire qu'on travaille pour garder notre salut. Vous le savez, c'est déjà. Mais on met en œuvre le salut qui nous a déjà été accordé avec crainte et respect. OK? On ne prend pas la grâce de Dieu comme un acquis, comme quelque chose de... la grâce de Dieu, dans d'autres mots, n'est pas à bon marché. Donc, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, qui fait en sorte qu'on a ce désir-là? C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Philippiens 2, versets 12 et 13. Mais, comme on vient de le mentionner, cette coopération va demander un effort personnel pour nous améliorer. Non, excusez, je reviens. Cette coopération consiste moins en un effort personnel pour nous améliorer qu'en une soumission à l'Esprit qui agit en nous. 1 Corinthiens 3, verset 7. Peu importe, en fait, qui plante et qui arrose. Ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Encore une fois, le grand architecte, celui qui va être notre source pour la sanctification, qui va être la source de notre puissance aussi dans la sanctification, c'est Dieu lui-même. Mais encore une fois, on doit se soumettre à l'Esprit Saint. Une des choses qu'on peut faire, c'est que, en étant des chrétiens, des enfants de Dieu, on peut par contre attrister l'Esprit. Parce qu'on peut résister parfois. Lorsque le Seigneur met vraiment sur notre cœur, OK, il faut que tu adresses telle chose dans ta vie. Il faut que tu ailles demander pardon à ton frère, à ta sœur. Il faut que tu... Peu importe la situation. Mais le Seigneur nous appelle aussi à lui obéir, à se soumettre à ce que le Saint-Esprit met sur notre cœur. OK? Sauf que on peut parfois attrister le Saint-Esprit. Donc, la sanctification est un développement progressif de la vie divine en nous, une croissance qui s'opère de l'intérieur vers l'extérieur. L'action du Saint-Esprit n'est pas instantanée. Il ne faut pas se décourager, comme on le mentionnait tantôt, lorsque nous n'avons pas l'impression de progresser. Puis ça nous arrive dans notre vie à un moment donné. Tu dis, l'impression, coudonc, il me semble que je suis en train de lutter avec le même type de pensée, le même type de tu sais, j'ai l'impression que je ne mets pas les efforts nécessaires. J'ai l'impression d'être las ou large plutôt. Mais il ne faut pas se décourager. C'est une œuvre progressive. Puis l'auteur nous rappelle de nous rappeler aussi de la, celui qui la parabole de la semence dans Marc chapitre 4 verset 26 à 29. Il dit d'abord il y a la tige qui apparaît, puis après ça il y a l'épi, enfin il y a les grains de blé qui remplissent cet épi. C'est vraiment une œuvre progressive que le Seigneur fait dans nos vies. Donc, si la régénération est instantanée, la sanctification va prendre du temps. Alors, ne nous décourageons pas là-dedans. Et avant d'aller dans le dernier point, les deux aspects de la sanctification, il est bon de préciser que le Nouveau Testament aussi parle d'une sanctification qu'un auteur du nom de Jeffrey Smith, que je me parlais tantôt, parle d'une sanctification définitive. Qu'est-ce que la sanctification définitive? On en a parlé un petit peu tantôt. Il nous dit « Notre union avec le Christ dans sa mort et sa résurrection n'a pas seulement assuré notre justification, mais elle est à la base et la cause effective de la création en nous d'un cœur nouveau et d'un esprit nouveau. C'est la sanctification initiale que l'on peut aussi appeler sanctification définitive. Il y a une sanctification définitive à la conversion, suivie d'une sanctification progressive tout au long de la vie chrétienne. » Et aussi, il y aura une sanctification parfaite lors de l'avènement de Jésus-Christ. Par définitive, on entend un acte décisif une fois pour toutes. Donc, dans le Nouveau Testament, on ne parle pas seulement de la sanctification comme un processus, on parle aussi souvent d'un acte unique et définitif. Le changement fondamental et radical, nous dit Smith, qui se produit dans la condition morale et éthique du pécheur lorsqu'il est uni au Christ dans la régénération. Et puis ça, si vous en souvenez, hein, il y a beaucoup de versets, puis il semble, en tout cas, je n'ai pas fait le décompte, mais il semble que dans le Nouveau Testament, il y a plus de versets qui nous parlent de cette sanctification définitive que de la sanctification progressive. Vous avez juste quelques exemples. À chaque fois que l'apôtre Paul s'adresse, bon, la plupart de ses épîtres, comment il commence? En s'adressant à tous les saints ou aux saints. Donc, ces gens-là sont vraiment considérés comme saints. Pourquoi? Parce qu'ils ont été, encore une fois, coupés de leur ancien maître pour être greffés à leur nouveau maître Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alors, ils sont considérés, ils ont été séparés pour l'œuvre et pour la consécration en vue de l'œuvre et aussi de vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1 et 2, ça dit « À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints », la meilleure traduction serait plutôt « saints par appel ». Donc, lorsqu'on est appelé par Dieu, par Jésus-Christ, on est saints, on est devenus saints. La version Sommaire qui nous dit « qui ont été appelés à faire partie du peuple saint ». Nous sommes, faisons maintenant partie du peuple saint que le Dieu s'est mis à part pour sa gloire. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11 nous dit aussi « Et c'est là que vous étiez, en parlant des gens, des Corinthiens, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Donc, tout ce qui précède, tout ce qui vient de mentionner, là, ça s'est produit à la conversion. Il y a vraiment la sanctification qui est mentionnée là, et la justification également, et le lavement des péchés. C'est ce qu'on appelle la sanctification définitive. Un autre verset peut-être qui peut vous aider, c'est 2 Thessaloniciens 2:13, nous disant « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Encore une fois, il y a cette notion de sanctification définitive dans ce verset-là, au moment du salut, alors que l'Esprit vient habiter en nous. Et un autre verset, 1 Pierre 1, 2, l'apôtre Pierre nous dit, « Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. » Voyez-vous, là, ici, il y a ces deux aspects-là, si vous regardez 1 Pierre 1, 2, qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit. Maintenant, on appartient à Dieu, on est sanctifié, l'Esprit nous habite, mais après ça, il y a cette sanctification progressive afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et Jean 15, verset 3 nous dit « Déjà, vous êtes purs. » Une autre traduction nous dit « Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncé. On va terminer bientôt, là. Excusez-moi, c'est un petit peu long. Donc, il y a deux aspects à la sanctification progressive. Si on vient à la sanctification progressive maintenant, on vient de parler de la sanctification définitive. Deux aspects qui sont complémentaires et simultanés. On pourrait dire que l'un des aspects est négatif. Je ne vous apprends pas grand-chose de nouveau ici. L'anéantissement du corps du péché, alors que le second aspect est positif. Le développement de la nouvelle vie implantée lors de la régénération spirituelle. Donc, premier point, la destruction du vieil homme, c'est le processus de purification qui est la conséquence de notre naissance à la vie divine et de notre état de fils de Dieu. On peut lire, on va tourner dans 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 3. 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 3. L'apôtre Jean nous dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne n'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc, ici, dans ce verset-là, on voit qu'il va y avoir une sanctification, pas définitive, mais finale et parfaite, lorsque Christ va apparaître. Mais entre-temps, toute personne qui possède cette espérance, l'espérance de revoir Jésus-Christ, de voir Jésus-Christ un jour, se purifie comme lui-même est pur. Et puis, l'auteur qui mentionne que le mot grec du mot « pur » ici signifie « feu ». Comme le feu rend pur les métaux précieux, la purification enlève de notre âme et de notre esprit la souillure du péché. C'est ce que la Bible appelle la crucifixion. Et le deuxième aspect de la sanctification, c'est le côté positif, c'est le développement de l'homme nouveau maintenant, qui entraîne une action positive de la nouvelle vie. L'Esprit, en prenant contrôle de toutes nos facultés, Romains 8, versets 4 et 14, fortifie notre esprit et le conduit à pratiquer le bien. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, « Sa puissance divine nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. » Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participants de la nature divine. Encore une fois, qui est la source de notre sanctification, c'est Jésus. C'est Dieu aussi par sa puissance divine, dont la puissance du Saint-Esprit, qui nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Dernier point, les moyens de la sanctification. On l'a mentionné tantôt, on l'a mentionné à quelques reprises. C'est le Saint-Esprit qui est l'agent qui agit dans la sanctification. Romains 5, 5. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La sanctification consiste en une marche selon l'Esprit, sous la direction de l'Esprit. L'homme participe à l'œuvre de la sanctification, mais L'homme participe à l'œuvre de la sanctification, mais cela demeure que grâce à la force que le Saint-Esprit lui communique continuellement. C'est le Saint-Esprit qui nous accorde des nouvelles affections, des nouveaux désirs. C'est sa puissance qui transforme notre volonté, qui contrecarre les désirs de la chair. L'Esprit est donc l'agent de transformation, de purification et de sanctification. En d'autres mots, il est impossible de se sanctifier nous-mêmes par notre force. Une personne n'ayant pas été régénérée ne peut se sanctifier. Alors, si on essaie de se sanctifier par nous-mêmes, par nos propres forces, malheureusement, ce sont des œuvres mortes. Okay, c'est comme si on fonctionnait sans l'œuvre ou sans l'aide du Saint-Esprit. On doit absolument se confier dans l'œuvre que le Saint-Esprit nous donne, plutôt la force que le Saint-Esprit nous accorde dans la vie. C'est un peu comme le cep et les serments. La sève coule dans le serment, mais c'est la vie de Christ qui vit en nous par le Saint-Esprit. C'est la même chose également. Alors ça, c'est vraiment les moyens de sanctification. Puis le moyen subjectif, c'est par la foi. Encore une fois, que ce soit notre salut, que ce soit notre sanctification, que ce soit notre justification ou notre sanctification, tout se fait par la foi. On dépend constamment de l'œuvre de Dieu. On dépend constamment de son soutien, de son aide. Et on a absolument besoin de son aide pour être sanctifié. Et les moyens objectifs, on n'entrera pas dans les détails, mais il y a vraiment la parole de Dieu. L'Esprit et la parole travaillent toujours ensemble. Okay? L'Esprit opère la conversion et la sanctification par la parole. Et la parole tire son efficacité régénératrice et sanctifiante de l'Esprit qui la vivifie. Deuxième moyen, objectif, les actions symboliques, les sacrements, le baptême et la scène. Il y a aussi la providence divine. Le Seigneur nous accorde aussi toutes choses pour notre bien, Romains 8, 28. Les souffrances qui permettent dans nos vies aussi vont faire en sorte que ça va nous sanctifier, parce que lorsqu'on souffre, on cherche une solution, on cherche de pouvoir s'en sortir. Dans ce temps-là, on se tourne vers le Seigneur et on dépend de lui. Un autre aussi, c'est la communion fraternelle. Donc, il ne faut jamais sous-estimer l'assemblement de nous-mêmes, encore une fois. Parce que le frère, comme le pasteur Jeff disait souvent, il dit « le frère aiguise le frère ». Le frère aiguise le frère, en voulant dire que souvent, on est là. Puis peu importe ce qui arrive dans l'assemblée, dans une famille, il va y avoir des chicanes, il va y avoir la réconciliation, il va y avoir des gens qui vont nous reprendre. Il va y avoir des gens qui vont nous édifier. Il va y avoir des gens qui vont nous empêcher d'aller dans un piège aussi. Alors, la communion fraternelle fait partie aussi d'un moyen de sanctification. Et le dernier point, c'est vraiment la prière. Par la prière, nous harmonisons notre volonté à la volonté de Dieu. Et nous nous associons à lui pour rechercher et obtenir, en faveur de nous-mêmes et des autres, ce qui est le meilleur. C'est l'Esprit qui nous apprend à prier selon la volonté de Dieu. Alors, c'est moyen objectif. Parole de Dieu, baptême et scène, providence divine, communion fraternelle et prière. Et un dernier point, j'ai beaucoup apprécié un auteur qui s'appelle Charles Later, qui a écrit un livre qui s'appelle « The Law of Christ », ou « La loi de Christ », qui mentionne dans son livre, il dit « Le chrétien ne marche pas inconsciemment dans l'esprit, parce que la vie du croyant, c'est la vie dans l'esprit. » La vie de la sanctification, c'est une vie qui se mène par l'Esprit et par la direction de cet Esprit. Lui, il dit, le chrétien ne marche pas inconsciemment dans l'Esprit en essayant consciemment d'accomplir la loi. Donc, je répète, le chrétien ne marche pas inconsciemment dans l'Esprit en essayant consciemment d'accomplir la loi, mais il accomplit la loi inconsciemment en cherchant consciemment à marcher dans l'Esprit. Est-ce que vous voyez la différence? OK? Puis, il donnait, je ne sais pas si lui ou quelqu'un d'autre donnait l'exemple, il disait, je pense que c'est vous autres les plus jeunes mariés ici, hein? Okay. Après ça, je pense que c'est Mathieu et... Ah! Oh! C'est vous après ça? Non? Vous êtes mariés au mois de septembre l'année passée? Vous, c'est... Janvier, OK. Donc, vous êtes les plus jeunes, deuxième plus jeune. Et... Mais imaginez que les maris arrivent à la maison et commencent à dire, bon, OK, aujourd'hui, j'arrive chez nous, première affaire... J'entre à la maison, je salue mon épouse. Deuxième point, je lui donne un bec. Troisième point, je dis que je l'aime. Quatrième point, ça n'a pas de sens, OK? Ce qui veut dire, en d'autres mots, c'est qu'il y a vraiment une relation d'amour qui doit se développer entre nous et le Seigneur. Ce n'est pas une question d'accomplir une liste de choses à faire. Ça n'a pas de sens, admettons. Ça n'a pas de sens. Donc, si on aime vraiment le Seigneur, si on est habité par l'Esprit Saint, et si, encore une fois, on sait que le Seigneur nous a aimés en premier, qu'on est l'objet de son amour, ça va être une relation d'amour. Et oui, le chrétien ne marchera pas inconsciemment dans l'esprit en essayant consciemment d'accomplir la loi, donc en faisant un checklist, mais il accomplit la loi inconsciemment en cherchant consciemment à marcher dans l'esprit. C'est vraiment la question d'avoir un amour réciproque avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, en terminant, donc, on a vu qu'est-ce que les trois points, c'était qu'est-ce que la sanctification, la nature de la sanctification et les moyens de la sanctification. Et je vous termine avec une dernière citation de la part de M. Leiter encore, qui mentionne, lorsqu'on On voit dans Jean chapitre 15 où on parle du cep et des serments, il dit, lorsque le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 15, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous », en utilisant le mot « demeurer » pour décrire notre responsabilité dans la production de fruits, parce que notre sanctification va faire en sorte qu'on va porter des fruits aussi par le Saint-Esprit, et puis ça va devenir de plus en plus manifeste. Donc, en utilisant le mot « demeurer » pour décrire notre responsabilité dans la production de fruits, notre Seigneur met l'accent non pas sur le fait d'atteindre, de parvenir, mais sur le fait de demeurer. Okay? Il y a une distinction. Puis ça, ça peut être réconfortant en disant que oui, tout a été fourni en Christ, puis il habite en nous, nous habitons en lui. L'appel à demeurer n'est pas tant un appel à faire quelque chose qu'un appel à vivre là où nous sommes. Donc, on était justifié une fois pour toutes, comme on l'a mentionné tantôt. On était aussi sauvé. On était adopté aussi. On peut demeurer là-dedans. Et la chose la plus importante que nous pouvons apprendre du commandement de demeurer est le fait de notre position actuelle d'union avec le Christ en tant que participant à sa vie même. Alors, encore une fois, c'est vraiment le Seigneur qui va produire cette sanctification. Puis en bout de ligne, ça va, l'œuvre que le Seigneur va produire dans nos vies de sanctification, la gloire va lui revenir à lui seul si on se confie en lui, puis si on demeure dans ce qu'il a fait aussi. Amen. Alors on va prier. Seigneur, on te remercie, Seigneur, d'être tellement patient envers nous, Seigneur. On te remercie parce que tu nous as accordé ton esprit. On te remercie également parce que tu nous as justifiés une fois pour toutes. Personne ici qui te connaît, Seigneur, n'est plus justifié l'un que l'autre, Seigneur. Parce qu'on a reçu, on a été déclaré juste par la justice imputée de Christ, cette justice parfaite. Et merci de nous avoir sanctifiés aussi, de nous avoir coupés, Seigneur, du monde pour nous avoir transportés dans le royaume de ton Fils, du Fils de ton amour. Alors, Seigneur, maintenant, notre supplication, c'est que tu nous aides à continuer ce combat, Seigneur. Premièrement, on sait que si on doit regarder, comme Paul nous rappelle, de regarder aux choses d'en haut, de garder les yeux fixés sur Jésus, lorsqu'on fait cette course, qu'on marche ou qu'on court, Seigneur, comme l'Épître aux Hébreux nous rappelle, c'est que premièrement, tu dois illuminer les yeux de notre cœur. Et Seigneur, tu le fais une fois en nous sauvant, mais continue à illuminer les yeux de notre cœur afin qu'on puisse constamment te voir. Seigneur, on ne veut pas nous sanctifier par nos propres forces, ça ne servirait à rien. On s'épuiserait, on deviendrait découragé, quoi que ce soit. Et parfois, Seigneur, on l'avoue, on est découragé. Mais Seigneur, merci parce que tu nous renouvelles, tes bontés se renouvellent à chaque matin. Ton esprit est manifeste dans nos vies. Alors Seigneur, merci de nous permettre de continuer à poursuivre la course sur le chemin qui est ouvert devant nous. Ayant des témoins autour de nous, Seigneur, qui nous encouragent. L'assemblement de nous-mêmes, Seigneur, à persévérer dans la foi. Merci de nous permettre de nous sanctifier, de racheter le temps aussi, Seigneur, afin qu'on puisse devenir de plus en plus semblable à ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. C'est notre désir, puis tu sais, la raison pour laquelle tu nous as appelés aussi à devenir semblable à l'image de ton Fils. Alors, bénis cette assemblée, bénis aussi Christian, bénis pasteur aussi Raymond également. Bénis tous les gens, Seigneur. Personne n'est inutile pour ta gloire. Tout le monde, Seigneur Dieu, tu nous accordes des dons pour pouvoir s'édifier les uns les autres et aussi pour qu'on se sanctifie, qu'on s'encourage, qu'on dise de ne pas lâcher, Seigneur Dieu. Lorsqu'un frère, une sœur est plus découragé, se sent abandonné de toi, Seigneur, on sait, Seigneur, que tu ne nous abandonnes jamais et que nos frères, nos sœurs vont nous le rappeler. Alors bénis cette assemblée et que cette assemblée soit vraiment chandelier, Seigneur, dans ce quartier. On te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen.